faisait bien 2 ans qu'on avait quitté notre nid.
Lâche pas ma main.
On avait trop attendu, pas d'envie mais pas de regret non plus.
Lâche pas ma main.
De ville en ville, de petit boulot, couple usé jusqu'aux os.
Lâche pas ma main.
De toute façon on n'avait plus vraiment le choix, alors autant ne pas rester là.
Lâche pas ma main.
On avait tout quitté, tout oublié, tout bazardé, surtout ne pas se retourner. Et avancer, c'était un traquenard. Chaque jour s'évaporait un peu d'espoir.
Lâche pas ma main.
La fatigue nous tirait la bride, les jours allongeaient nos rides.
Lâche pas ma main.
On ne se parlait plus tellement, mais était subtil, pas vraiment.
Lâche pas ma main.
Chaque grange, chaque gare, chaque hangar offrait leur nuit de cauchemar.
Lâche pas ma main.
La notion d'avenir me faisait presque sourire.
Lâche pas ma main.
On avait tout quitté, tout oublié, tout bazardé, surtout ne pas se retourner. Et avancer, c'était un traquenard. Chaque jour s'évaporait un peu d'espoir. Ce jour-là, on avait marché beaucoup.
Lâche pas ma main.
Tu t'es effondré sur le dos et tu t'es éteinte sans un mot.
Lâche pas ma main.
Les flics sont arrivés avant la nuit. Je t'aime tant, j'étais déjà parti.
Lâche pas ma main.
Tu seras plus avec moi sur le chemin, mais ne lâche pas ma main.
Lâche pas ma main.
Ne lâche pas ma main.
Lâche pas ma main. Lâche pas ma main.
Eh bien, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Libertaire. Nous sommes à l'écoute de l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature » qui est consacrée à la littérature prolétarienne, animée par des personnes du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui a été créé début 2020, juste avant Covid, et qui publie notamment Fragments, revue de littérature prolétarienne, et depuis 2022, qui s'est lancé dans l'aventure des éditions Prolits, consacrées à cette littérature. Alors nous nous retrouvons pour la première fois en 2023, puisque les deux premières émissions de janvier et de février n'ont pas été possibles du fait pour de bonnes raisons sociales, hein, suite aux différentes mobilisations contre le projet de réforme de la retraite, hein, et il nous a pas été possible soit d'enregistrer de manière préalable et de venir le jour-là pour diffuser. Et donc nous avons pris ce premier rendez-vous 2023. C'est notre 12e émission, hein. Nous avons commencé il y a juste un an, en février, sans aucune interruption, y compris pendant la période estivale 2022. Voilà. Alors, dans le studio aujourd'hui, il y a la technique Frédéric, du groupe La Commune de Paris de la Fédération anarchiste, comme depuis un an sans interruption. Et également, nous recevons aujourd'hui Michel, qui est déjà venu dans le cadre de cette émission, qui va nous parler d'exposition sur l'art brut notamment, mais pas que. Et petit rappel, nous avons fini l'émission de décembre 2022 par la chanson que vous venez d'écouter, « Ne lâche pas ma main », de François Hadji Lazaro. François Hadji Lazaro, c'est l'un des fondateurs du groupe Pigalle, des Garçons Bouchers, d'autres groupes, hein, et qui avait fondé, rappelons-le, le label Boucherie Production, qui était un label indépendant qui s'opposait à l'époque au monopole des majors dans le secteur de la distribution. Et François Hadji Lazaro est décédé le 25 février 2023. C'est pour ça que nous avons choisi cette chanson. Voilà. Alors, au sommaire, pour cette rencontre, des informations qui concernent les activités de notre association, hein, puisque nous sommes une association loi 1901, donc avec une assemblée générale annuelle. Nous allons donc vous donner quelques échos sur notre association, sur le bilan que l'on peut faire de la revue Fragments qui prépare son 7e numéro, sur les avancées en matière du secteur édition, sur les projets qui sont en chantier, et si le temps nous reste, nous parlerons, enfin je vous présenterai quelques livres qui viennent de sortir et sur lesquels pour certains nous reviendrons dans notre rencontre d'avril. Mais nous allons donc tout d'abord commencer notre entretien avec Michel qui va nous parler d'art brut, d'expositions à venir. Michel, à toi la parole. Tu vas évoquer donc Jean Dubuffet, hein.
C'est ça.
C'est bien ça.
Oui.
Voilà. Et je rappelle quand même que la démarche du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale se situe dans les orientations globales, hein, pas ouais. au pied de la lettre évidemment, mais à la fois du travail que faisait Poulaille, dont les revues ne se limitaient pas à la publication d'écrits d'ouvriers ou de paysans ou d'employés, mais aussi avait une approche sur l'art en général, sur la gravure, sur la peinture, et cette proximité d'approche, nous l'avons retrouvée ensuite chez Michel Ragon, dans son travail à la fois d'écrivain, mais aussi en faveur de l'art, du mouvement Cobra, etc., du surréalisme, etc. Donc, je te passe la parole, Michel.
Très bien. Donc, effectivement, on pourrait dire de l'art brut, et pourtant, il existe cet art, parce que pour l'art brut, c'est approcher un point d'origine de l'art à l'état de naissance, en fait, jaillissant des profondeurs de l'humanité. Voilà, c'est ça l'art brut. C'est ce que cherchaient avec des moyens différents André Breton et les groupes surréalistes, puis les membres de la compagnie de l'art brut réunis par Jean Buffet. En fait, l'essentiel, c'est de sortir du marché de l'art conventionnel tel qu'on le connaît tous et qui en ce moment devient complètement fou puisque les toiles sont vendues à des millions de, de dollars et deviennent plus que des objets d'échange et une marchandise en fait. Et ben l'art brut c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire c'est essayer d'aller aux racines de la créativité et de la création en dehors de tout marché de l'art et en dehors surtout du système marchand. Voilà.
On peut peut-être dire par exemple que les peintres naïfs à une époque, ce qu'on appelait le peintre naïf ou bien même le musée du facteur cheval, c'est aussi...
Voilà, c'est ça. Et peut être dans l'art brut. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire que c'est ce désir qu'on a, chacun d'entre nous, de s'exprimer et de créer, en fait, simplement pour le plaisir de la création, pour la beauté, et pas simplement pour exposer et vendre des tableaux. Donc, c'est une quête, en fait, hein, parce qu'il faut aller chercher qui fait cet art et où. Donc, cette quête, elle a démarré, en fait, avant la Première Guerre mondiale, et elle va être poursuivie, reformulée au cours d'un demi-siècle de recherche et de pratique artistique. Alors, bien sûr, avec les guerres, elle a connu quelques freins, hein, qu'on comprend bien, mais en fait, c'est une démarche qui est quand même assez ancienne. Entre 1919 et 1969, les surréalistes s'affranchissent des hiérarchies entre artistes reconnus et autodidactes, entre œuvres issues de la main de l'homme et formes naturelles. Les tenants de l'art brut aspirent à un ensauvagement de la création contre un art culturel dominant tenu pour asphyxiant par Jean Dubuffet. Donc je vous donnerai deux livres à la fin de ce que j'aurais à vous dire en fait. Et il y en a un que je recommande vraiment beaucoup qui est de Jean Dubuffet et qui s'appelle justement « L'asphyxiante culture » et qui explique effectivement comment... comment le marché dominant de l'art nous asphyxie complètement et étouffe notre créativité. Donc les chemins de d'André Breton et de Buffet se croisent en 1948 autour d'un projet de publication, l'Almanach de l'art brut. Des points de convergence émergent entre eux. Donc déjà un intérêt pour l'art issu des, ce qu'on disait à l'époque, des asiles, qu'on dirait aujourd'hui des hôpitaux psychiatriques, non, on n'appelle même plus ça comme ça, mais en fait, des hôpitaux spécialisés. Des points de convergence donc entre l'intérêt pour cet art, mais aussi les peintres spirites, André Breton était quand même assez tourné vers le spiritisme, les anonymes auteurs d'œuvres étranges, et les rejets des cercles officiels et de l'apprentissage. Ils essayent de rechercher des gens qui en fait n'ont jamais été formés par des écoles d'art. Alors on reviendra là-dessus parce que c'est quand même un peu compliqué, mais bon voilà, pour eux ils recherchent des gens qui n'ont pas eu d'apprentissage, et c'est une tentative de trouver d'autres cultures qui vont aller d'ailleurs chercher dans la culture océanienne, arabe ou américaine, puis en Europe, puis des foyers de création plus authentiques qu'ils vont pouvoir trouver. Les moyens qu'ils mettent en œuvre sont différents. Donc c'est pour Breton, c'est la recherche d'un nouveau mythe social et le recours à l'art magique. Et pour Debuffet, c'est plutôt la mise en doute systématique de la culture occidentale. Il me semble que Debuffet avait plutôt une approche politique révolutionnaire, je dirais, par rapport à l'art que peut-être Breton. Voilà. Chemin faisant.
Ben, Breton s'est quand même positionné un peu. Avant, avec le manifeste. Oui. Sur l'art révolutionnaire, avec oui. On a déjà parlé oui. Avec Diego Rivera, avec le manifeste de Trotsky à l'époque.
Voilà, c'est ça.
C'est avant la guerre, ça.
Mais Jean Dubuffet, toute sa vie, en fait, va être opposé complètement à l'art, au marché de l'art, en fait. Hein. Donc, chemin faisant, ensemble, ils mettent au jour des œuvres et des créateurs jusqu'à là invisibles et contribuent à leur donner une reconnaissance dont on mesure l'importance aujourd'hui, puisque ça va être, effectivement, tous ces artistes sont rassemblés aujourd'hui dans la collection d'art brut qui est à Lausanne. Alors, l'art brut, c'est au tout départ une expression de la folie. En 1922, le peintre Dada Max Ernst entre en France grâce au passeport de Paul Éluard. Il a dans ses bagages le livre de Hans Prinzhorn, Expression de la folie, qui vient de paraître. L'auteur, qui a suivi des études d'art et de philosophie avant de se consacrer à la psychologie, y expose une vision esthétique des œuvres des malades mentaux, réunies dans la collection de l'hôpital universitaire de Heidelberg. L'ouvrage circule entre tous les acteurs du surréalisme naissant, dont Jean Dubuffet. L'attention des peintres et des écrivains parisiens est attirée surtout par les nombreuses illustrations qui font de ce livre un vrai livre d'art, comparativement aux publications qui existaient déjà, françaises, hein, qui existaient précédemment, par exemple « L'art chez les fous » de Marcel Réja en 1907. Donc tout ça, ça remonte hein, quand même. Ils ont fait des choses intéressantes. Le docteur Marie organise les premières expositions parisiennes dédiées à l'art asilaire en 1927 et 1929. C'est à cette période que Breton, Éluard et Robert Desnos vont entrer dessins et objets d'aliénés dans leur collection. Et ça a été les premiers collectionneurs, en fait, hein, puisque c'était les premiers qui ont découvert, donc ils ont collectionné beaucoup de ces œuvres. Lorsque Dubuffet visite la collection Prinzhorn en 1950, 5 ans après avoir inventé l'art brut, il s'intéresse à un petit nombre d'œuvres d'apparence maladroite et peu savantes. Jean Dubuffet séjourne en Suisse en 1945 à la recherche d'œuvres de patients et noue des contacts avec des hôpitaux. En 1948, il rencontre André Breton, donc pour lui proposer de s'associer à la compagnie d'art brut qu'il est en train de fonder, et donc d'éditer cet almanach de l'art brut. Mais le projet n'aboutit pas, car il est beaucoup trop onéreux, et c'est la séparation entre l'art brut et le surréalisme, même s'il continue à se côtoyer. Mais bon, chacun va développer plutôt sa branche. Jean Dubuffet va donc continuer à prospecter et collectionner l'art brut en Amérique, en Europe, et il va fonder la toute première collection d'art brut. Déposée aux États-Unis, la collection d'art brut de Dubuffet reste invisible au public français pendant 10 ans. À peu près, car Dubuffet, il continue lui aussi à travailler à ses propres œuvres, en fait. Hein, donc, il ne peut pas tout faire, il l'avait confié à quelqu'un aux USA qui devait effectivement faire la prospection. À la fin des années 50, Dubuffet est établi à Vence. Il relance une campagne de collecte d'art brut qui aboutit entre autres à la découverte. Alors là, ça ouvre, on sort de l'art asilaire. Et là, par exemple, il découvre des œuvres en coquille d'œuf du pâtissier Francis Palanque. Donc là, ça, on ouvre, en fait, on sort de l'art asilaire pour arriver à tout plein de personnages populaires, du peuple, tout seul, qui travaillent chez eux, qui font des toiles, qui font des réalisations, qui font des sculptures, et qui sont, je veux dire, qui sont de l'art. Voilà, elles ne sont pas exposées dans les musées, elles ne sont pas, mais c'est de l'art, et Dubuffet va rassembler, en fait, tout ça, et là, on va sortir de l'art asilaire.
Là, on est dans la période des années 1950, c'est ça?
Oui, c'est ça, 1950. En 1950, oui. Donc, en 1962, la collection est finalement rapatriée rue de Sèvres, à Paris, où est aujourd'hui le siège de la Fondation Jean Buffet, dont je parlerai tout à l'heure, qui organise des expositions. Mais le lieu demeure confidentiel, car la collection accompagne Dubuffet dans sa résistance à l'asphyxiante culture. Il ne veut pas exposer sa collection. Il veut que très peu de gens la voient. Il veut pas qu'elle rentre dans le marché de l'art. Il veut pas que ses artistes soient estampillés artistes. Il veut qu'ils continuent à produire. Il se met en marge, en fait, complètement. Et c'est vrai que c'est quand même un peu... Sa réflexion est quand même un peu compliquée, parce que lui, dans le même temps, il crée quand même et il est exposé, donc il rentre bien quand même un peu dans le marché de l'art. Certains des auteurs de la collection d'art brut vont être aussi exposés, vont aussi demander à avoir un peu d'argent par rapport à leurs œuvres. Donc c'est quand même une ligne très radicale qui est quand même assez difficile à tenir et qui à certains moments peut être un peu contradictoire.
Mais qu'il... est-ce que c'est pas peut-être, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est une réflexion qui me vient, mais pour un sentiment d'éviter une récupération par un système et quelque chose qui vient d'en bas.
Voilà, alors ça
comme
pose...
Ça, comme ça a eu lieu pour plein de peintres.
Voilà, c'est... Oui, et puis ça pose...
Voilà,
puis ça pose la question, moi je dis tout court, c'est-à-dire dans un système capitaliste, quoi qu'on essaye de faire, est-ce qu'on arrive vraiment à s'en sortir et à sortir des circuits, en fait? Que ce soit l'art, ou que ce soit, par exemple, l'éducation, ou que ce soit... Enfin, voilà, on peut retrouver... c'est un peu tous les discours, les réflexions qu'on peut avoir aussi sur les coopératives, sur les choses comme ça. Est-ce que dans un système capitaliste, on peut arriver à vivre complètement en marge?
Sur des labels indépendants en musique dont on parlait.
Voilà, voilà. Donc, moi, je pense que oui, mais c'est quand même très, enfin, assez difficile, quoi. Et il faut être très, très vigilant, en fait. Hein. Donc, en fait, en 76, Jean Dubuffet va offrir sa collection d'art brut à Lausanne. Alors, pourquoi Lausanne? Ben, d'abord parce qu'au début, la quête est partie plutôt de la Suisse, hein, et qu'il avait fait beaucoup de contacts là-bas. Aussi, il a eu beaucoup, beaucoup d'offres des musées parisiens, entre autres le musée d'art moderne. qui lui a longtemps proposé de récupérer sa collection, et il a toujours refusé, en fait. Il a refusé à tous les musées français, parce qu'il pensait qu'ils étaient beaucoup trop dans le circuit du marché de l'art, et il voulait pas que sa collection soit dévoyée. Donc, en fait, aujourd'hui, pour aller voir la collection d'art brut, il faut aller à Lausanne, ce que je vais faire dans pas longtemps, parce qu'il y a que là où on peut la voir, en fait. Hein, voilà.
Tu as parlé de la compagnie de l'art brut.
Oui.
Ça regroupe qui exactement?
Alors, c'était surtout Jean Dubuffet et puis les conservateurs. Il y a eu quelques conservateurs dont je n'ai pas les noms là, parce que je n'ai pas tout noté. Mais de personnes qui s'occupaient de faire vivre la collection, de l'exposer. Mais elle était exposée toujours à un tout petit public, en fait. Mais surtout, qui était chargée aussi de continuer à prospecter. Parce qu'en fait, à partir d'un instant où ils sont sortis de l'univers asilaire, il y avait plein de gens qui créaient. Donc il fallait que les contacts soient pris et il fallait que cette collection demeure vivante.
Et en fait, ce qui est posé un peu par rapport à exposer ou pas exposer, réduire, ça pose le problème d'une organisation alternative de diffusion de la création.
C'est ça.
C'est la question.
Quelque
part autogestionnaire. Il n'y a pas de garantie non plus,
c'est un peu ça qui
me pose.
Alors, c'est vrai que tous les artistes de la collection d'art brut, certaines œuvres ont été achetées, hein, mais elles sont achetées très peu chères. Elles n'ont pas de cours comme le cours de l'art. Les artistes ne sont pas cotés, en fait. Hein. C'est simplement des échanges qui se passent un peu comme ça entre les gens et qui permettent que les œuvres soient réunies dans la collection ou soient achetées par des gens. Mais il n'y a pas de grandes manifestations. Et il a tout fait du buffet pour qu'on ne les voit pas, ces collections, en fait. Hein.
Ça pose un problème aussi, si au départ, tu as parlé d'art asilaire.
Oui, c'est ça.
Sans doute aussi, il y a la question de la création dans le milieu de ce qu'on appelait les asiles.
Oui.
Et où peut-être les créateurs sont dépossédés de fait par leur situation d'aliénés.
Oui, c'est ça.
Il y a peut-être en plus cette question, en tout cas pour cette catégorie. À l'origine.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu des expériences. Alors, je vous recommande, si vous voulez aller plus loin, de lire un livre que moi j'ai trouvé absolument passionnant, qui s'appelle L'art brut de Lucienne Péry, P-E-I-R-Y, chez Flammarion, et qui vient d'être réédité là en janvier 2023. Donc c'est très très détaillé, il y a énormément de photos, il y a toute la vie des artistes, et surtout ce qui est important, c'est de voir que des médecins et le système asilaire, certains ont su donner de l'espace dans l'asile même aux gens pour qu'ils créent, leur ont donné les moyens, et en fait au début il y a eu des grands débats sur... est-ce que ce sont des fous ou est-ce que ce sont des artistes? Et en fait, ils ont toujours été présentés comme des artistes et jamais comme des fous, en fait.
Oui, et puis ça pose la définition de qu'est-ce que c'est que la folie.
C'est vrai que ces médecins psychiatres ont fait un boulot... après, on est sur tout ce qui est l'ouverture de l'hôpital psychiatrique et voilà. Ils ont fait dans les années 1920, quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Parce qu'effectivement, ils ont ouvert les murs. Même si les gens devaient rester, parce que, ils ne savaient pas où aller, ils leur ont donné les moyens de créer et ils les ont fait connaître comme artistes, ils ont toujours refusé de donner le nom de fou. En fait.
Et puis je crois que la lisière entre, une création classique et le rapport à l'asile, il est ténu parce que elle est ténue cette lisière parce que Antonin Artaud, on va le retrouver en psychiatrie
voilà,
à Rodez,
c'est ça.
Hein.
Bien sûr.
Van Gogh,
Arles,
on va le retrouver.
C'est ça.
Aussi.
Le facteur Cheval qui avait tout son village sur son dos, quoi, tellement. Et voilà.
On l'appelait le Fada.
C'est ça.
Le facteur Cheval, on l'appelait le Fada, donc.
Bien sûr.
Quelqu'un qui aujourd'hui la ville d'Hauteville, puisque c'est dans la Drôme, Hauteville. C'est aussi assez ironique au niveau de l'histoire.
Oui.
Les habitants d'Hauteville le montraient du doigt, le facteur Cheval comme un
fou.
Un cinglé qui ramenait ses pierres. Et aujourd'hui, la ville a envie.
Envie, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait.
On enlève,
c'est ça.
Il plus rien dans
l'ordinaire. C'est ça. Alors que toute sa vie, il a été effectivement discriminé par les gens de son village, oui. Qui ont été très très durs hein, avec lui, et il était très très seul, très solitaire. Et effectivement, comme tu dis, c'est quand même un peu fort qu'aujourd'hui le village d'Autry va en vivre. Quoi.
Tant voilà. Mieux, parce que ça rend hommage à sa création.
Mais, oui, voilà, c'est ça.
Bon, si on
prend
dans la région, c'est intéressant. Donc en fait, on peut dire que cette création artistique, c'est à la fois... la création asilaire au départ, mais aussi oui. Après, oui. Des autodidactes, des marginaux.
Tout
c'est
à
un
fait.
Peu ça le centre de
C'est ça, de beaucoup, de gens ouvriers, artisans, qui en fait, comme ce pâtissier qui faisait en fait des tableaux avec des coquilles ouais. D'œufs, c'est-à-dire qu'à partir de leur métier, ils créaient, il y a des sculptures en ferronnerie qui sont absolument magnifiques, qui ont été faites par des ouvriers métallurgistes qui sont absolument splendides, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'ils étaient, de leur vie de tous les jours, ils ont sorti une création. Et alors, c'est vrai que tous ces artistes, là Jean Dubuffet effectivement, et les gens de la compagnie de Darbrut, ont quand même toujours retenu que des gens qui n'avaient pas eu d'enseignement artistique. Alors, c'est quand même un peu compliqué, parce que c'est, là aussi, il y a un autre paradoxe. Est-ce qu'on arrive à éviter d'être formé artistiquement ? Moi, je dis... c'est très difficile parce que déjà à l'école, et tout petit, on leur apprend comment ils doivent dessiner, comment ils doivent peindre. Mmh. Et déjà, ils n'ont plus de libre expression par rapport à ce qu'ils sont. Donc, si ça commence à l'école maternelle, je me dis, après, même si on ne fait pas d'école d'enseignement artistique, on est quand même tous imprégnés par une forme d'art. Et puis surtout, on est tous imprégnés par un art où il faut faire selon des règles précises. En fait, voilà.
Après, il y a aussi le parcours d'apprentissage personnel qui
c'est
fait
ça.
Que des fois, à partir de différentes sources, la personne crée quelque chose de spécifique,
oui.
Hors des écoles aussi.
Oui.
Par contre, ce qui est, donc, il fait cette recherche en France, mais pas simplement. Ça s'étend en Amérique. Hein.
Ah oui. Il fait en Océanie, tout ça. Ben, ça accompagne aussi tout ce qu'ont fait les surréalistes quand ils sont partis effectivement en Afrique, en Océanie, et que tout l'art africain, par exemple, est arrivé, tout l'art océanien, où ils sont allés rouges. Parce que l'objectif, c'était toujours celui-ci pour tous, c'est-à-dire retrouver une forme d'art primitive qui serait la première création de l'homme, quoi, en fait. Un peu. L'exposition. Alors, j'ai pas pu.
Comme l'écriture automatique, par exemple.
Oui, voilà, c'est ça. Comme l'écriture automatique, comme le dessin automatique, voilà. La poésie automatique, tout ce qu'ils ont développé qui tend à retrouver. Alors, je suis allée, mais j'ai pas pu en parler, et puis j'en parlerai pas parce que l'exposition est finie. C'était à Lille, au LAM. Il y avait une exposition en janvier. Enfin, je ne sais plus quand c'était, peu importe, qui s'appelle Chercher l'or du monde. Chercher l'or du monde. En fait, ça résume tout à fait ça. C'est-à-dire, c'était aller chercher dans la terre les pépites qui étaient encore dans leur gang de terre et de pierre. Et pour eux, c'est ça l'art brut. Voilà. Avant qu'il soit sorti des mines, avant qu'il soit poli, avant qu'il soit présenté dans une vitrine ou dans un musée. Voilà.
Donc ils sont mis en forme de manière officielle.
Mis en forme de façon officielle, voilà. D'accord. Donc l'exposition... Alors, au niveau des musées en France qui sont un peu plus spécialisés dans l'art brut, il y a effectivement le LAM, près de Lille, qui est plutôt effectivement là-dessus. Il y a Bordeaux aussi, le musée de Bordeaux. Et puis, à Paris, il y a la Halle Saint-Pierre, en fait, en dessous de Montmartre, qui est plutôt spécialisée dans l'art brut. Sinon, il faut aller à Lausanne, en fait.
D'accord. On va faire une petite pause musicale en écoutant Pierre-Henri, Psyché Rock, qui date de 1968, si ma mémoire est bonne. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, à l'écoute de l'émission, et pourtant elle existe, cette littérature consacrée à la littérature prolétarienne et à la création artistique qui vient d'en bas. Alors, nous sommes toujours avec Michel, qui vient de nous parler de Jean Dubuffet et qui va maintenant nous parler d'une artiste et d'une exposition consacrée à Baïa.
À Baïa. Alors, je vais juste finir un peu sur la fondation Jean Dubuffet, qui est donc rue de Sèvres. C'est une maison particulière au fond d'un joli jardin. C'est là donc où était avant exposée la collection d'art brut. Et cette fondation organise donc régulièrement des expositions des œuvres de Jean Dubuffet. Ils ont aussi une, je dis comme ça, une très très belle librairie sur les artistes peintres et entre autres Jean Dubuffet. Et c'est là où j'ai trouvé l'asphyxiante culture aux éditions de Minuit, où en fait il explique tout ça. Aux éditions de Minuit.
D'accord, Minuit. Okay.
Oui, où il explique donc tout son rejet de l'art traditionnel. Alors, actuellement, la Fondation Jean Dubuffet organise une exposition que j'ai pas vue, donc je vais vous en parler parce que je pense qu'il faut aller dans ce lieu, justement qui s'appelle Non-lieu, l'exposition, et dans laquelle, donc c'est uniquement des œuvres de Jean Dubuffet, là, et il part du principe qu'on a des conceptions du temps, du vide, du plein ou de la matière qui sont complètement erronées et que pour lui, il n'y a que des élans énergétiques en mouvement permanent et donc le vent souffle sur cette exposition des non-lieux. Voilà, donc je vous encourage à aller voir, le lieu est en plus très très beau et c'est vraiment un très beau lieu. Voilà, rue de Sèvres.
D'accord, c'est une exposition permanente ou c'est...
Non, c'est une exposition temporaire.
D'accord.
Voilà. Alors, Baïa. Donc, Baïa, effectivement, ouais. On va parler de Baïa. Donc, Baïa, j'ai vu son exposition à l'Institut du Monde Arabe, où elle est toujours exposée donc, jusqu'au 26 mars, si vous voulez y aller. Hein, on va falloir se dépêcher. Mais Baïa, je l'ai retrouvée aussi donc, au LAM, à Lille. À l'exposition cherchée lors du temps, voilà. Donc, c'est un pur produit aussi de l'art brut, et effectivement, dans son histoire, on voit qu'elle a été repérée par Breton et Jean Dubuffet. Alors, Baïa, elle est née en 1931. Elle est algérienne. Au départ, elle a un papa et une maman. Jusqu'à qu'elle ait 5 ans, je crois, quand son papa meurt. Là, à ce moment-là, sa mère se remarie, bien évidemment. Là, les femmes ne restent pas longtemps seules. Hein. Et donc, elle et son frère sont confiés à leur grand-mère, qui en fait travaille dans les champs.
Donc elle est née en Algérie.
Oui, c'est ça. Elle est née en Algérie. Voilà, c'est ça. Elle est bergère avec sa grand-mère, hein, dès l'âge de 9 ans. Elle travaille dans les champs, elle travaille même durement, d'ailleurs. Au décès de sa mère, donc quand elle a 9 ans, elle est confiée, cette fois-ci, complètement à sa grand-mère, et elle devient ouvrière agricole. Donc, elle rencontre beaucoup d'autres femmes. Elle rencontre des femmes du Kabylie, dont les couleurs éclatantes des vêtements la passionnent. Elle voit aussi le travail de la terre, de la poterie. Donc elle découvre un univers de couleurs, de plantes, d'animaux, de terre, de poterie, dès qu'elle est toute petite. Donc cette maman lui manque évidemment beaucoup, et on retrouvera dans tous ces tableaux sont sur une femme, sur des femmes, mais surtout sur des femmes sans visage, en fait, voilà. Donc, mais qui sont pleins de couleurs, et voilà. Donc, avec sa grand-mère, donc, je disais, elle est ouvrière agricole, et elle est employée au champ. Et elle va aller dans une ferme horticole de la famille Farge, qui donc est française, voilà. Et là, elle rencontre une dame qui s'appelle Marguerite Camina, qui avait fui le régime de Vichy pour s'installer à Alger, à l'époque. Baya, pendant ce temps-là, elle continue à avoir une vie difficile et, entre autres, Marguerite Camina remarque qu'elle subit les mauvais traitements de son oncle, qui est donc condamné pour ça, et la tutelle de Baya est confiée à Marguerite, à cette femme française, qui en fait va remarquer le travail de dessin et de peinture que Baya faisait depuis qu'elle était toute petite, avec très peu de moyens, avec de la terre, avec de la gouache si elle en trouvait, et voilà. Donc Marguerite va l'aider en fait à développer ce sens artistique qu'elle voit chez cette petite fille. Et elle va lui donner, non pas des cours, mais elle va lui donner tous les moyens de pouvoir valoriser ses talents. Elle lui procure des cours de français, du papier, des pinceaux, des couleurs, voilà. Et Baya passe très vite des dessins d'enfants où s'exprime l'amour de la nature et la quête du lien maternel, à des compositions figuratives, élaborées, rythmées, colorées. C'est une exposition qui est absolument magnifique. En fait, tous les gens qui y sont allés en sont ressortis complètement époustouflés par son travail. C'est un travail à la gouache, et c'est très rare aujourd'hui les tableaux à la gouache, donc ça aussi c'est à remarquer. Donc, grâce au contact avec Marguerite, elle, en tant que Française, elle a des contacts avec un jeune galériste, Aimé Meg, qui est venu à Alger. Et l'œuvre de Baya est donc exposée en 1947 à Paris, avec un immense succès. André Breton, Albert Camus, entre autres, saluent la naissance d'une artiste. Voilà. Donc, elle part à Valoris, dans la poterie, dans la poterie Madura, en 1948, où elle va côtoyer Picasso. Elle quitte l'Algérie. À Alger, où elle vit avec Marguerite, elle reçoit la visite de Jean Dubuffet. Et en 1952, Baya est confiée par le juge des tutelles à une famille de Blida pour se marier. Parce que Marguerite n'avait que la tutelle, il fallait que, ils l'ont mariée, le juge l'a mariée, en fait. Et en 1953, elle épouse un célèbre musicien, blidéen, qui est chef d'orchestre, c'est un chef d'orchestre arabo-andalou. Alors, il est beaucoup plus âgé qu'elle, c'est sa seconde épouse.
Donc à ce moment-là, elle revient en Algérie.
Et là, elle revient en Algérie, okay. Voilà. C'est la seconde épouse, son mari est beaucoup plus âgé, et elle aura 6 enfants de lui. Donc là, elle se consacre pleinement à sa famille, d'autant plus que les 7 années de la guerre d'Algérie paralysent complètement la vie culturelle. Donc c'est vrai que sur les années de la guerre d'Algérie, en fait, elle est mariée, elle est avec son mari dans sa maison et ses enfants. Son mari arrête de travailler et de donner des concerts parce que c'est difficile et voire impossible.
C'est-à-dire c'est dans le contexte de la guerre
de la guerre
nationale,
voilà, c'est ça.
Contre le colonialisme, ils sont obligés de.
Oui. Et là, elle va passer toute la guerre d'Algérie complètement recluse, en fait, sans peindre, à s'occuper uniquement de son mari et de ses enfants. Ils se mettent hors champ, en fait, pendant cette période. Mais pendant ce temps, par contre, elle entretient une correspondance artistique et affective, toujours avec Marguerite, qui reste quand même cette femme, je dirais, un peu qui a remplacé la mère, quoi, un peu, et qui est toujours là. En 1963, la suite de l'expo collective d'artistes algériens au musée d'Alger, ces œuvres sont acquises par le musée d'Alger. Grâce à cette impulsion, Baya se remet au modelage, puis à la peinture. Donc, elle continue, en fait, elle relance son imaginaire et Elle ajoute dans ses tableaux, vous verrez dans l'exposition si vous allez y aller, on avait les fleurs, les femmes, les poteries, avec des couleurs éclatantes, et là arrivent tous les instruments de musique de son mari qui envahissent tous ses tableaux, et ça fait vraiment des œuvres très très belles. Et elle travaille toujours à la gouache. Dès 1978, le Centre d'art brut de Lausanne fait d'importantes acquisitions et elle peindra jusqu'à sa mort en 1998. Voilà. Donc c'est un exemple type, mais il y en a tout plein d'autres de ce que c'est que l'art brut, en fait.
Oui, voilà. D'ailleurs, son enfance un peu, ou son adolescence rappelle un peu Marguerite Audoux, hein,
oui, c'est
qui
ça.
Est ouais. Bergère, qui travaille à... Ouais. Comme bonne à tout faire, pratiquement.
Et c'est ça.
Et qui va ensuite découvrir l'écriture. C'est une démarche d'autodidacte qui, à un moment, bénéficie de conseils et de...
C'est ça. C'est ça, d'un environnement qui peut être porteur à un moment donné, avec des gens qui remarquent plus que d'autres, en fait.
Mais le couple parvient à vivre de leur création.
Oui.
À la fois du mari
et d'elle.
D'accord.
Oui. D'accord. Et elle, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est cette interruption pendant plus de 10 ans, en fait. Plus aussi quand même avoir 6 enfants. Enfin, c'est quand même une histoire de vie assez forte. Et qu'elle recommence après jusqu'à sa mort à exposer et à peindre, en fait. Voilà.
Oui, à la fois la parenthèse de la guerre.
Oui.
Contre le colonialisme français et sans doute des tâches d'éducation des enfants.
Enfin, c'est ça.
D'accord.
Donc voilà, donc vous pouvez la voir à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 26, j'ai marqué, oui c'est ça.
26 mars, c'est la semaine prochaine. Hein.
C'est la semaine prochaine. Donc allez vite la voir, en fait. Hein. Voilà.
D'accord. Alors, donc tu nous as parlé de son enfance. L'exposition qui va s'achever, et elle est aussi présente à Lille, tu as dit, c'est ça ?
Oui, donc elle était exposée au LAM, à Lille. Il y avait plusieurs tableaux d'elle, et elle est donc à la collection d'art brut à Lausanne, d'accord. Puisqu'ils ont la coopérative d'art brut avait racheté...
Donc c'est le seul endroit où on peut voir son travail en permanence.
Là, à part l'Institut du Monde Arabe, oui, ou alors elle est à Lille, quoi.
D'accord.
Mais bon, l'exposition à Lille, chercher l'ordre du temps est terminée, donc je sais pas même si on peut voir ces tableaux à Lille aujourd'hui, en fait.
D'accord.
Mais à Lima, oui, à Lima, on peut les voir, sans...
D'accord.
Sans souci. Et c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau.
Mm. Je pense que ça donne envie d'aller voir.
Oui.
Tu voulais aussi aborder maintenant, on va passer au cinéma.
Ah oui.
Sur un film qui porte sur l'immigration italienne des années 20.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner quelques repères sur ce
c'est ça.
Film
c'est...
d'animation ?
Voilà. Alors, c'est un film d'animation qui s'appelle Interdit aux Italiens, aux chiens et aux Italiens. Attends, je retrouve. Voilà. Donc, en fait, c'est un film d'animation, mais pas un dessin animé. Hein. C'est vraiment un film qui a été fait d'animation à partir de modelage, en fait. Donc, les personnages sont en relief et c'est vraiment... c'est vraiment très beau. C'est l'histoire d'une famille. Alors, déjà, l'auteur... je retrouve... Tu as le nom de l'auteur, toi ?
Non.
Bon, je vous le redirai après.
C'est réalisé par Alain Huguetto.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est l'histoire de sa famille et du village en Italie d'où est issue sa famille. Voilà. Donc, il part du... Enfin, alors c'est l'histoire de l'immigration italienne telle qu'on est nombreux à la connaître. Hein. Donc, c'est en fait... À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une misère quotidienne qui s'installe sur l'Italie et particulièrement l'Italie du Sud, avec qui connaît la faim, qui connaît un travail harassant, où le danger et la mort sont omniprésents. On voit d'ailleurs dans le film beaucoup des membres de la famille ou du village qui disparaissent dans des accidents parce qu'ils construisent des barrages, parce que, enfin, ils font des travaux les plus durs possibles, en fait, sans bien sûr sécurité telle qu'on peut connaître aujourd'hui. Et voilà.
Donc, c'est parfois l'immigration qui est venue de. Du combat antifasciste aussi.
Voilà, c'est ça. Alors là, on démarre comme ça, et effectivement, à un moment, il parle aussi donc de la guerre de Mussolini, quand il veut aller coloniser les gens qui demandaient rien du tout.
Dans,
c'est la campagne. Voilà, c'est ça, l'Éthiopie, la campagne d'Abyssinie, en fait. Donc ils connaissent ça aussi. Le film est rythmé par la misère, par la guerre, et puis par cette émigration, voilà. Et après la montée effectivement du fascisme, voilà, parce que comme les révolutions n'ont pas abouti, le fascisme est arrivé, voilà. Donc c'est un fil tout au long, et à un moment on les voit effectivement franchir les Alpes, parce qu'ils peuvent vraiment plus du tout vivre en Italie, et une partie de la famille émigre, passe les Alpes, et dans les Alpes veut rentrer dans un petit village. Il y a un café, et sur la porte du café c'est marqué interdit aux chiens et aux Italiens. Et le petit garçon de la famille dit à son papa: mais pourquoi c'est écrit ça, papa? Et le papa dit: oh non, non, mais c'est pas un problème, c'est juste parce que les gens, ils ont peur que les chiens mordent les Italiens. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très joli comme explication. Donc c'est tout le titre du film, et c'est comment ces Italiens vont arriver à s'implanter en France ou dans d'autres pays, puisqu'ils sont, moi mes grands-parents, il y en avait quelques-uns en France, mais tout le reste de leur famille est parti au Brésil. Ils allaient très loin et se revoyaient jamais, et puis voilà. Donc,
il y en a eu par exemple, dont le père de Salvatore Adamo,
oui,
qui est mineur dans le Borinage en Belgique.
Oui, c'est ça.
Il arrive, il est mineur suite à cet exode. Hein,
oui, c'est ça. Et moi, mon grand-père est arrivé dans le Nord comme ça, tout seul, hein, aussi, alors qu'il était marié, mais à l'époque, il avait laissé ma grand-mère encore en Italie. Il est arrivé tout seul, effectivement, dans les mines du Nord, voilà. Et il nous racontait, j'étais petite, mais de ça, je me souviens. Il nous racontait comment il avait peur, en fait, hein, des chemises brunes et de tous ces fascistes qui étaient en train d'arriver. Et il avait surtout très très peur de recevoir plein de coups de bâton et qu'on lui fasse boire de l'huile de ricin. Et pour lui, c'était resté. Enfin, il y avait plein de gens qui en mouraient dans d'atroces souffrances. C'était absolument terrible. Et pour lui, c'était mais vraiment. Et il est arrivé comme ça en France. Et après, il a pu faire venir ma grand-mère. Mais effectivement, je parle de ma famille parce que je connais, mais il y a beaucoup de familles qui ont connu cette émigration, et ça a été quand même, enfin, assez difficile comme intégration.
Mais cette inscription interdite aux chiens et aux Italiens,
oui,
c'est après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça.
Pour moi, c'est une découverte, parce que bon, on connaît le phénomène raciste contre, oui, les Italiens dès le début.
Oui.
Du 20e, hein,
du 20e, bien sûr.
C'est les macaronis, et
bien
ça
sûr
va se poursuivre après,
bien
etc.
Sûr, bien sûr.
Et ouais, là, je pensais pas qu'il y aurait des trucs comme ça.
Là, dans le film, c'est là, mais bon, dans le film, comme c'est un film d'animation, il met beaucoup, ouais, d'événements en même temps.
D'accord.
Beaucoup d'événements, ouais, qui arrivent dans la famille ou dans le village. Il montre le rôle de l'Église dans la misère. Enfin, comment l'Église venait prélever sur les pays leur part de,
oui,
leur part des récoltes, leur part, alors que les gens mouraient de faim, en fait, hein, voilà. Et ça c'est quelque chose qui est aussi très prégnant dans ma famille, puisque ma grand-mère, donc italienne, a comme beaucoup de femmes, servi les prêtres, c'est-à-dire entretenait l'église, cueillait les fleurs, leur faisait à manger, enfin parce que c'était comme ça. Et ben ma grand-mère est restée analphabète, elle a jamais su ni lire et écrire, alors qu'elle a été une bonne partie de sa vie et jeune en contact avec des religieux qui auraient pu lui apprendre à lire et écrire, et ils l'ont jamais fait. Et pour mon père, c'était quelque chose de, qu'il n'a jamais pardonné à l'Église, en fait, et que je porte, moi, du coup, encore aujourd'hui. Parce que c'est, dans le film, c'est bien montré, cette prégnance de la religion qui les fait marcher droit, malgré la misère et malgré tout, quoi.
Il voilà. y a un film qui passe sur... Enfin, c'est une mini-série
oui.
sur Arte en ce moment.
Esterno Notte.
Et c'est ça exactement, et qui a commencé hier,
oui.
et qui relate un peu la période des Brigades Rouges avec un
Dombrou,
mais qui montre bien le poids de l'Église, qui est vraiment pesant et présent à tous les niveaux
oui.
de l'État et d'institutions, bien au-delà de s'occuper des consciences ou des croyances des fidèles. Hein. C'est
oui,
vraiment
c'est
un rôle politique en même temps. Donc, c'est, je dirais que c'est presque logique qu'il n'essaye pas de donner l'apprentissage de l'écriture ou de la lecture.
Ah, mais tout à fait.
À
voilà, c'est ça. C'est ça. Mais alors qu'en fait, comme mes grands-parents ont émigré, mais comme beaucoup d'immigrés, ils sont arrivés quand même dans un pays où ils connaissaient ni la langue, où ils étaient incapables de se débrouiller, tant au niveau de la vie quotidienne, mais aussi de faire les papiers, mais aussi de tout ça. Et en fait, ils les ont laissés comme ça. L'Église les a laissés se débrouiller complètement. Enfin, je veux dire... alors qu'en fait, voilà, le minimum aurait été effectivement de leur apprendre au moins à parler l'anglais ou le brésilien ou je ne sais pas quoi. Mais même ça, c'était pas donné, quoi. Voilà.
Donc
ce film est vraiment, enfin, il est très très émouvant, il est très poétique, il est très, malgré tout ce qu'il raconte, il est comment dire, très respectueux. Moi, j'ai trouvé qu'il y a énormément de respect des gens et de l'histoire qu'ils racontent par cet auteur. Et c'est vraiment très beau.
Mais si j'ai pas bien. Il est sorti au Festival international du film d'animation d'Annecy
c'est ça.
En 2022, mais on peut le voir quelque part ou
pas? Ah oui, là, en ce moment, il est dans les cinémas parisiens.
D'accord, ok, voilà. Très bien.
Non, ça, oui, là, on peut le voir en ce moment.
Pas. D'accord.
Oui.
Et en plus, c'est. Je veux dire, je rappelle quand même aussi, de manière un peu marginale à côté, mais il y a une actualité aussi sur la question de l'exil d'un certain nombre d'Italiens qui ont, à la suite des années de plomb en Italie, ont été accueillis en France avec une reconnaissance d'un droit d'asile par Mitterrand en 81, et qui sont sous la menace d'une expulsion, puisqu'il y a des négociations entre l'État italien et le gouvernement Macron.
Hein. Oui, donc, c'est ça.
Je veux dire, c'est la question du droit d'asile est une question aussi d'actualité.
Oui.
Eh bien, je crois que nous allons en finir avec cet entretien, Michel, et nous allons faire une petite pause musicale avec les Doors, The Unknown Singer.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television children fed, unborn.
Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier.
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature. Alors, nous allons un peu maintenant parler de nous, hein, parce que nous, c'est une association, hein, le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui a comme objectif de faire connaître cette littérature d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, et de contribuer à sa diffusion et de montrer que ce courant d'expression littéraire ne se conjugue pas simplement au passé, comme parfois on voudrait l'entendre. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse qui n'était pas prévue. Le centre Poulaille de Cachan revit. Hein. Mmh. J'en ai déjà parlé, mais ça revit. Il y a eu, j'ai pu m'y rendre moi en février. Il y a une documentation. Faut prendre rendez-vous, mais j'en parlerai. Je pense les personnes qui sont présentes, qui sont des doctorantes, hein, qui font un travail de compilation et de recensement. Oui. Parce qu'il y avait un fond Poulaille, mais qui n'était pas exploité. C'est des pièces entières avec des... Ça concerne la littérature, la peinture, les correspondances. Oui, c'est un puits d'informations fantastiques. Et personnellement, moi, je cherchais par rapport à un ouvrage qu'on a en préparation sur les PTT vus par les agents de la Poste, mais j'ai trouvé des correspondances entre Poulaille et Charles Montout-Moret, par exemple, qui est un des auteurs des années 30 jusqu'à 50-60. J'ai trouvé ça, quoi, qui est recensé. Voilà, ça, c'était juste une parenthèse. Hein. Bon, ça, c'est vraiment... Moi, je suis assez content que ce centre revive, et on espère que ça va perdurer dans le temps. Mais on y consacrera, je pense, une émission s'il y a un accord avec les personnes, tu vois.
Oui, c'est ça.
Parce que les faire venir, expliquer le travail, pourquoi il y a eu dans cette histoire une rupture à un moment donné. Il y a un vrai enjeu là, quelque chose. Je veux dire, ces archives ne doivent pas dormir. Voilà. Alors nous, c'est l'association, le club, on est une association 1901, donc on n'a pas vocation à vivre sur nous-mêmes, à être renfermé, on n'est pas une secte.
Tout à fait, oui.
Voilà, on a fait une assemblée générale, c'est notre deuxième, parce qu'il y a une année Covid, on n'a pas pu la faire. On a fait un bilan un peu du développement de l'association au niveau national. Et on est, c'est-à-dire il y a une cotisation annuelle de 15 euros. Et on est une quarantaine maintenant disséminée un peu sur le territoire, avec un renouvellement régulier. Pour la troisième année de la cotisation, et vraiment c'est intéressant parce que c'est un élargissement du groupe qui est riche.
Oui,
parce que chacun apporte des choses, des contacts. Mm-hmm. Et nous, on travaille sur une base autogestionnaire, hein, on rappelle, on martèle. Mais c'est vraiment chacun est. À une possibilité d'aider à la connaissance de notre vue et à la connaissance du travail qu'on fait. Mmh. Et chacun est acteur. On essaye d'avoir... bon, bien sûr, il y a des personnes qui sont aussi des lecteurs de la revue, mais c'est indépendant le champ des abonnés et le champ des adhérents. Donc, un bilan qui est relativement positif, selon nous, hein, puisqu'on a quand même eu 2 années de Covid plein pot qui ont empêché toute rencontre et toute initiative publique, même. Hein. Mmh. Donc, ça, c'est le premier point. Et... deuxième point, c'est le bilan un peu de la revue. Hein. Nous en sommes au 7e numéro en préparation. Il est il est complet en termes de contributions reçues. Hein. Mmh. Il paraîtra, je pense, courant juin, peut-être début juillet, mais plutôt courant juin, j'ai l'impression, puisqu'il y a une équipe, il y a un comité de rédaction qui s'est un peu élargi, d'ailleurs, et de même que le bureau de l'association s'est élargi aussi. Mmh. Et on a reçu, et là, il y a un comité de relecture qui comprend 5 ou 6 personnes qui a entamé le travail de correction pour essayer de donner la meilleure des copies possible, puisque bon, on sait qu'il peut toujours y avoir une coquille ou deux qui passent au travers. Mais bon, là on en est vraiment avec la suite des contributions de Philippe Jeunesse sur la littérature prolétarienne depuis 1970, avec des études assez fouillées, et puis la suite de l'histoire d'un gamin de Paris, de Franck Thiriot, par exemple, qui est paru dans le numéro 6, il y avait aussi une pièce théâtrale de Thierry Maricourt, et on essaye d'élargir un peu aussi, poser la question du théâtre, le théâtre prolétarien, ça a existé, hein, notamment dans l'Est de la France. Il y a tout un travail qu'on essaye d'élargir, à Roubaix aussi, dès le début du 20e siècle, hein, je me trompe des fois de siècle, moi. Voilà, donc de ce côté-là, les abonnements sont au rendez-vous, hein, puisqu'ils progressent à chaque numéro. On a dépassé la 100aine. Bon, ça peut paraître peu, mais nous, quand on compare avec certaines activités, on sait que c'est un signe quand même, et surtout un taux de réabonnement qui est à plus de 90%, quoi. Donc, ceux qui étaient abonnés au numéro... On s'est abonné au numéro 1 pour 5 numéros, et il y a un retour aujourd'hui, et puis chacun amène des personnes. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. C'est pas de l'autosatisfaction, hein. C'est pour permettre aux auditeurs, aux auditrices, d'avoir une vue un peu concrète de ce que c'est le travail de l'association et le travail de la revue Fragments. Comment ça fonctionne en interne avec... on donne aussi une publicité à des livres qui nous sont envoyés, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, il y aura une petite modification, c'est que le prix de l'abonnement qui était 30€ pour 5 numéros passera à partir du numéro 7 à 35, pour la bonne raison qu'on a commencé avec une revue qui faisait 64 pages et qui en fait maintenant plus de 120 systématiquement. Donc voilà, et on est encore, je veux dire, une personne qui s'abonne, si on prend le prix au numéro qui est de 9,50€, je veux dire, c'est quand même très intéressant, quoi. Donc on essaye de... Et on va faire aussi un tarif d'abonnement pour les personnes qui ont des revenus précaires ou difficiles à un moment donné. Donc ça a été décidé par l'Assemblée Générale. Alors, en matière de... Des éditions. Oui, vas-y.
Je me disais, sur la revue, peut-être on pourrait dire comment on la diffuse. C'est-à-dire que, effectivement, on a opté plutôt pour le colportage.
Oui, exactement.
Voilà. Et ce qui est une méthode qui a l'air de porter ses fruits, d'ailleurs. Voilà. Et puisqu'on a étendu le nombre de gens, ça. Et puis aussi, peut-être, les participations au salon. Parce que. Toi particulièrement, tu en as fait quand même plusieurs, et c'est quand même là où effectivement on peut rencontrer, discuter avec des gens qui du même coup prennent leurs adhésions, et voilà, et que les présences en salon sont importantes.
C'est important, et c'est Enfin, en plus, c'est surtout dans la région de Vendôme au départ.
C'est
Laurent qui est déjà venu dans l'émission, qui a participé à des salons au niveau local. Mm. Puis on l'a élargi. Moi, j'étais dans la Somme avec Thierry Maricourt. Thierry a été encore à Chaune cette année. Le choix de la diffusion, c'est un comportage, c'est-à-dire c'est la volonté de gérer du début à la fin ce qu'on fait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et en fait, par exemple, on ne passe pas par un diffuseur ou un distributeur, on a déjà parlé, mais on s'aperçoit que le contact direct avec des librairies, par exemple, puisqu'on passe, on travaille avec des librairies, il y a qui ont une remise d'ailleurs, à mon avis, légèrement plus intéressante que dans le circuit habituel, mais on s'aperçoit qu'on est contacté aussi par exemple, une librairie Terra Nova à Toulouse, une autre à Lyon. Il y a des échanges.
Oui.
Ça, c'est des librairies qui nous contactent directement. Et puis, il y a un travail local qui est fait. Je pense à Jean-Marc, par exemple, un membre de l'association qui est à Bayonne, qui diffuse, qui met dans 4 librairies à Bayonne.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a le canot librairie qu'on contacte directement. Là, il y a Isabelle qui travaille sur Tours, par exemple, pour voir s'il y a une possibilité d'avoir une nouvelle implantation. Il y a vraiment... c'est des contacts directs et humains, quoi. Donc,
c'est pas
simplement quelqu'un qui balance dans une librairie. Mmh. Et bon, bien sûr, il y a des librairies en région parisienne, mais on en a découvert deux nouvelles dans le 18e, où on a des points d'ancrage. Et puis, il y a parfois le réseau syndical, parce que ça aussi, c'était une tradition du mouvement ouvrier. Hein. Mmh. À une époque, il y avait des bibliothèques syndicales.
Oui, tout à fait.
Je veux dire, avant 14, on adhérait au syndicat, on adhérait aussi à... Il y avait une bibliothèque qui était mise à disposition des adhérents dans les bourses du travail pour se cultiver.
Oui.
Et on essaye, quand il y a un congrès, une réunion syndicale, en tout cas à notre petit niveau, ça n'a pas l'ampleur de ce que ça a pu être à une époque. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup encore des fois il y a même plus de locaux d'ailleurs pour les syndicats.
Oui.
Mais ça on essaye de présenter et ça fonctionne d'ailleurs. C'est dans le congrès confédéral de CNT Solidarité Ouvrière que j'ai rencontré un camarade qui nous a mis en lien avec les gens de Cachan dont je parlais tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Et ça fait boule de neige et ça élargit le champ. Parce que, et je pense qu'en faisant comme ça, on renoue avec une tradition qui a eu lieu dans le mouvement ouvrier, où il y avait une proximité entre la littérature prolétarienne et le mouvement syndical, syndicaliste révolutionnaire. Ça, c'est constant avec la vie ouvrière avant 14 et un peu après même. La révolution prolétarienne, la revue qui se crée, et il y avait même la librairie du travail, qui est un jour, il faudra qu'on en parle de cette librairie du travail, qui existe de 1919 à 1939, qui est un refuge pour tous les anti-staliniens de France et de Navarre au niveau des écrits, qui va être boycotté par le Parti communiste. Et il y a toujours cette proximité de ces Peloutiers. La lutte révolutionnaire, c'est pas simplement de dire on va descendre les armes à la main, mais c'est aussi faire un travail en direction d'individus pédagogiques et se cultiver soi-même. La science de son malheur, disait Peloutier, comprendre la science de son malheur dans sa lettre aux anarchistes. Et ça, on essaye de maintenir ce lien, même s'il n'est pas très développé. Il y a quelques syndicats avec lesquels nous sommes en contact. Mais bon, voilà. Ça, c'était un peu... je parlerai aussi d'un petit bilan qu'on a fait du premier livre qu'on a sorti, Ligne de front. Alors, depuis le temps, il est sorti vraiment... Il est sorti des presses en juillet 2022, mais il était vraiment disponible en septembre. Et on peut dire aujourd'hui que la diffusion a permis d'amortir le coût d'impression par, là aussi, des moyens autogérés, c'est-à-dire soit des commandes directes à notre siège, suite des fois à l'émission de radio d'ailleurs, on a eu des commandes, soit par la diffusion de camarades qui diffusent dans leur lieu d'habitation, dans leur librairie. Mais c'est un bilan qui est fait sans les librairies, c'est-à-dire que on est parvenu à équilibrer le secteur édition de notre association par la vente directe et les commandes au siège et les salons. Donc ça, c'est un point positif, parce que ça nous permet de faire le lien avec une des décisions de notre Assemblée Générale, qui est de continuer à éditer. Donc on a deux fers au feu, on va dire. Le premier, c'est une réédition de L'enfantement de la paix de Poulaille, et une autre qui est un texte, un roman de Michel Ragon. Hein, on travaille avec Françoise Ragon, bien entendu, et qu'on a rencontré à quelques-uns, et qui s'intitule, ce roman qui est paru en 68 avec Peu d'écho, qui est paru avec Chérubin Michel, avec l'étiquette roman révolutionnaire, roman d'action révolutionnaire. Ça s'appelle « Nous étions 17 sous une lune très étroite ». Ce titre est une citation extraite du journal de bord de Che Guevara, juste quelques jours avant une des dernières pages de son journal de bord, avant qu'il ne soit liquidé par l'armée bolivienne. Voilà, donc il y a ça. Il y a une réflexion aussi sur un texte d'Émile Guillaumin. Et en même temps, un travail, je l'ai dit, sur les postiers. Là, on a déjà pas mal de contributions. Contributions anciennes qu'on reprend, et des contributions récentes de postiers, puisque là, on a aussi un pourcentage d'adhérents et d'abonnés qui ont travaillé soit à la distribution, ou qui travaillent à la distribution, soit au chèque, soit dans les centres de tri. Et on a des contributions qui arrivent. Voilà. Et on a un projet pour 2024. C'est un colloque où il y a pas mal de gens déjà qui ont répondu, hein, des amateurs de Michel Ragon, mais aussi des universitaires qui ont fait un travail. Et on est en train de chercher un lieu. Hein. On a une piste en direction de Fourmies, mais ce n'est pas certain, au ministère de Fourmies, à Guise, dans l'Aisne, hein, qui serait un lieu symbolique par rapport à l'histoire. L'histoire du Mont-Ouvrier, quoi. C'est, là, il y a... Maintenant, c'est pas certain que ça se fasse là, donc on a plusieurs plans B, hein, pour voir au niveau de la région parisienne, ou peut-être à Lyon, on travaille ça. Mais en tout cas, il y a pas mal de... Là, c'est quelque chose sur deux jours, hein, avec des intervenants, des tables rondes, mais aussi des films, hein, on a des accords, et sans doute une pièce de théâtre. Donc ça, c'est un gros projet qui demande beaucoup, et puis il faut voir si on a les reins assez solides pour assumer ça.
Oui.
Et on va essayer aussi d'améliorer notre blog, hein, on a un blog, de rendre un peu plus vivant et peut-être plus agréable à consulter. Alors, je vais terminer un peu rapidement en vous parlant de livres qui viennent de paraître, hein, et que nous recommandons. Alors, je voulais préciser que par rapport au livre Ligne de front, nous aurons François, l'auteur, en mai. Hein, ça sera une émission enregistrée, puisqu'on va faire un débat sans doute dans une librairie de la région parisienne, hein, le 13 mai, avec présentation à la fois de la revue et à la fois de son livre, et en même temps de l'association avec Thierry Maricourt, etc. Voilà, donc ça c'est, pour en terminer, deux ou trois titres. Tout d'abord, les éditions Quiero, Q-U-I-E-R-O, qui est une maison d'édition qui se situe à Fort Quinquier, hein, et qui publie deux textes assez courts, deux essais. Enfin, le premier, c'est « Le chef contre l'homme » de Marcel Martinet, et le second, c'est « Le refus de la hiérarchie » de Philippe Geneste, qui contribue régulièrement à publier son histoire de la littérature prolétarienne dans la revue. Alors, c'est intéressant, parce que c'est un texte de Marcel. Le premier, c'est un essai de Marcel Martinet, qui a été, rappelons-le, un compagnon de route des syndicalistes révolutionnaires avant la guerre, qui écrit son ouvrage « Les temps maudits contre la guerre », pendant la Première Guerre mondiale, hein, mmh. et qui va, je veux dire, collaborer avec avec la revue la Révolution prolétarienne, qui aura une petite, il vient du mouvement libertaire, hein. Il va collaborer pendant 3 ans, comme beaucoup de syndicalistes révolutionnaires, dont Pierre Monnat ou Rosmer, avec le mouvement communiste jusqu'en 24. Ça va être très 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 rapide, et il va diriger à ce moment-là la rubrique littéraire, littérature de l'humanité.
D'accord.
Puis après, il va rejoindre les opposants au stalinisme et à la stalinisation du mouvement ouvrier. Donc je vais faire très court, mais je veux dire, nous, ça nous fait plaisir, en tout cas moi, qu'on reparle de Marcel Martinet. Et c'est un texte qui était paru en 1934, hein, le chef contre l'homme, dans une revue qui s'appelait la revue Esprit, qui a été une revue fondée par Emmanuel Mounier, qui était un représentant d'un catholicisme social, mais surtout qui a hébergé les cahiers de littérature prolétarienne de Poulaille pendant 4 numéros en 1936, quand Henri Poulaille n'avait plus de revue pour publier ses textes. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est un texte qui, faut me resituer, hein, il paraît en janvier 34 au départ. Rappelons-nous, 6 février 34, on est dans un contexte où il y a le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie depuis 1922,
oui.
et en France, des mouvements, Cagoulard et autres, qui essayent de renverser le Parlement. Et le 6 février 34, ça va être la manifestation à la Concorde, hein, où il va y avoir 17 morts, animé notamment, le PC y est un petit peu au début, mais pas trop, il va sortir vite, mais animé notamment par les anciens combattants d'extrême droite, qui vont essayer de... C'est l'extrême droite, hein. Et pour la petite parenthèse, parce que c'est passé un peu en dessous les radars, ça, mais au tout début des Gilets jaunes, le RN,
oui.
quand il veut déposer une des premières manifs avant les Champs-Élysées, il demande la place de la Concorde. Et c'est pas un choix qui est par hasard. Ça, moi, j'y crois pas. C'est refusé, enfin, passons. Mais en tout cas... Eux, ils ont le sens de leur histoire, en tout cas. Hein, ça aurait été symboliquement important pour eux d'être la relève de l'extrême droite fascisante des années 30. Donc, c'est un texte qui est écrit dans ce contexte-là. Et il prend la plume afin d'essayer de cerner les conditions de l'accession des mouvements fascistes au pouvoir. Et là, il fait tout un travail d'analyse sur comment chez la tendance de l'individu à déléguer ses pouvoirs, en fait, c'est ou sa liberté ou sa capacité de penser, de réfléchir, d'agir, de la déléguer à des instances supérieures qui sont un parti, qui sont le chef suprême ou la chef suprême, hein, ça peut être aussi la chef suprême à un moment donné.
Et sans contrôle.
Ainsi, il dit. Et sans contrôle, bien sûr, il dit « Le fascisme ne peut s'établir que sur une préalable abdication volontaire et enthousiaste de l'individu. »
Hein,
c'est la capacité d'une force organisée à agréger le pouvoir de l'individu. Je ne vais pas... Bon, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait revenir, parce qu'à l'époque, en 34, les reportages de Daniel Guérin sur l'Allemagne n'ont pas encore été publiés en France, ils ne sont qu'en 36, hein, qui donnera après les ouvrages La Peste Brune, etc. Mais c'est donc un texte qui est très intéressant. Et il est aussi intéressant parce qu'il est suivi d'une analyse, je dirais, actuelle, qui s'appelle « Le refus de la hiérarchie » de Philippe Geneste. Donc, ce sont en fait des clés pour alimenter la réflexion sur les conditions à la fois d'accession du pouvoir d'un régime qui serait fasciste ou d'un régime autoritaire. Donc, le texte de Philippe Geneste est intéressant parce qu'il essaye de disséquer les mécanismes de soumission et de développement de l'autoritarisme un peu, et il le fait par rapport au pouvoir actuel. Après, on pourrait avoir un débat. Est-ce que l'autoritarisme de Macron, c'est le fascisme ou pas? Là, le débat serait long, et on pourrait en discuter longtemps. Mais il est intéressant de voir où il pointe le doigt. Et lui, il dit « Le produit direct de la socialisation autoritaire dont l'éducation est le vecteur essentiel. Donc il parle de l'école. Et après, c'est vraiment intéressant, c'est un texte assez court, hein, les deux textes sont assez courts, mais il analyse aussi comment dans les groupes politiques, dans les associations, dans les syndicats,
Partout, y compris
dit révolutionnaire ou alternative, comment se mettent en place les, les mécanismes de pouvoir.
C'est ça.
C'est-à-dire, lui, il pense qu'au-delà des statuts, il y a la question de la parole, il y a la question de qui décide, au nom de l'urgence, on prend les décisions, et on pourrait même aller au-delà de son texte. Moi, je pense qu'il y a aussi la question, et c'est pour ça que c'est important dans les questions de la littérature prolétarienne, mais aussi comment on sépare... comment on réduit, en tout cas, l'espace entre travailleurs manuels et travailleurs intellectuels dans ces associations, qui est rarement posée. Moi, j'ai vu des associations, je ne donnerai pas de nom, où il y a toujours des gens qui pensent, qui réfléchissent, puis d'autres, par exemple, à la fin d'une fête, qui manient le balai, ou qui s'occupent des fientes de pigeons. Voilà, je ne donnerai pas d'endroit. Mais ça concerne plein d'organisations et de groupes, c'est aussi un autre aspect. Et ça, c'est intéressant. Donc,
mais je pense qu'on pourrait aller sur le livre de la Boétie, de la servitude volontaire,
complètement.
Qui explique bien ces phénomènes affectifs liés à l'éducation,
complètement.
Et à la culpabilité qu'on peut avoir.
C'était en filigrane, mais c'est,
voilà, c'est ça.
T'as raison, parce qu'on y pense. Et alors, donc, là, je suis très court.
Oui.
Donc, c'est, je rappelle quand même que bon, ces livres, vous pouvez les trouver dans toutes les bonnes librairies, mais nous les avons aussi à disposition par nos réseaux. Au niveau du. Vous pouvez nous écrire pour avoir des renseignements, pour nous proposer des textes. Hein, notre adresse elle est simple, c'est CCLOPS, Cercle culturel et littérature ouvrière, paysanne et sociale, et c'est 79 rue du Docteur Roux, R-O-U-X, 95 130, Franconville. Franconville de la Garenne, même. Il devait y avoir des lapins à une époque, là-bas. Et donc, ça, c'est... Et alors, je vais dire, mais vraiment, j'y reviendrai la prochaine fois. C'est pour saluer l'ouvrage des éditions de Plainchamp. Je parle souvent des éditions de Plainchamp, mais vraiment, Edmond Thomas, là, il nous donne un texte assez costaud, deux textes assez costauds. Ça fait plus de 240 pages. 236 pages exactement. Et c'est un texte d'Amédée Dunois, on y reviendra, un journaliste, la grande époque, qui a été anarchiste, communiste, socialiste, résistant, qui meurt en déportation en 1945, et là, il nous redonne un texte de lui qui s'appelle Le Mouvement Bûcheron. C'est paru à l'époque en 1909 dans les cahiers Nivernais. Ça a été publié là. Et c'est un peu la naissance de l'organisation des bûcherons. Moi, les bûcherons, on n'entend pas souvent parler. C'est vraiment intéressant parce que ça concerne les bûcherons, les paysans et aussi les travailleurs de l'horticulture, toutes ces questions. Et on voit comment ils essayent de s'organiser, comment ils essayent de prendre la parole dans l'hiverné, mais aussi après d'élargir. Voilà. Et après, il y a un deuxième texte qui suit, qui est dans le même livre. D'Émile Guillaumin, on en reparlera. C'est une réédition d'un texte qui s'appelle La peine aux chaumières et qui dresse des portraits du monde paysan vraiment très intéressant. Voilà. Donc, ça, on en reparlera. Nous les diffusons parce que, effectivement, il y a une proximité de travail. J'ai oublié, mais c'est pas grave parce que ça sera notre invité le mois prochain. C'est deux ouvrages de Paul Masson. Qui est le premier consacré à Gaston Coutet, poète libertaire. On en reparlera aux éditions du Petit Pavé. Et aux mêmes éditions, on parlera, il sera notre invité, il vient d'Arras, c'est Chemin et Mémoire, qui relate son parcours, je dirais, intellectuel, militant, puisqu'il sera ensuite, il vient d'un milieu ouvrier, et il sera ensuite... formateur, animateur à Culture et Liberté. Donc, on en reparlera. Voilà, je vais clore sur ces entrefaites. Je vous laisse donc pour aujourd'hui et au mois prochain. Voilà.
matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un beau gelé vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable.